Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En 1989, au moment des célébrations du bicentenaire de la Révolution française, le documentariste hollandais Johan van der Koken tournait à Paris un film intitulé « Le Masque ». Il y suivait Philippe, un jeune homme de 23 ans sans domicile, dans son errance. « Quel est ton plus grand désir ?» lui demandait le cinéaste dans l'une des scènes centrales du film. « Mon plus grand désir, c'est de m'acheter une garde-robe avec des costumes pour paraître devant les gens, pour porter un masque », lui répondait Philippe dans une formule qui donna son titre au film. Le 25 février 1990, à la veille de sa diffusion à la télévision, Serge Danet recevait van der Koken dans son émission Microfilm. Il était alors déjà un cinéaste reconnu, mais n'avait pas encore tourné son chef-d'œuvre, le magnifique Amsterdam Global Village, qui devait voir le jour 6 ans plus tard. Johan van der Koken au micro de Serge Danet, une émission diffusée pour la première fois le 25 février 1990.
Microfilm. Microfilm, bonsoir. Il y a à côté de moi quelqu'un que je suis bien content de voir. Bien content de voir à Microfilm, d'autant plus qu'il s'est déplacé de lui-même, qui n'est pas un pays très lointain, mais quand même, c'est la Hollande, pour venir parler de son travail et de son dernier film. Cette personne s'appelle Johan van der Koken. Les gens qui suivent un petit peu ce qu'il est convenu d'appeler, faute de mieux, le cinéma documentaire, le connaissent forcément. On parlera du documentaire plutôt en fin d'émission d'un accord commun pour pas commencer avec des clichés, pour finir avec des clichés un peu mieux que de commencer avec des mauvais clichés. C'est quelqu'un qui regarde principalement les choses telles qu'elles sont. Ça suffit déjà à faire un cinéaste. La raison tout à fait contingente de sa présence ici, pour une fois Microfilm est ultra synchrone, c'est que à la télévision, donc lundi, c'est-à-dire demain, à 23h25, sur FR3, dans le cadre d'Océanique, il va passer un film qui s'appelle Le Masque, qui est le film de Johan van der Koken. Ce film a été fait dans le cadre du bicentenaire, c'est-à-dire qu'il y a eu des cartes blanches données à certains cinéastes étrangers pour regarder la France au moment du bicentenaire. On le voit au début de 90, c'est-à-dire que déjà le bicentenaire paraît une chose lointaine et étrange, donc c'est peut-être pas inintéressant de parler de ce léger différé. Le film, inutile de le dire, n'est pas sur le bicentenaire, mais il est un regard assez aigu et assez dur sur des choses qu'on peut voir en France en 89, dans un moment de plutôt d'euphorie, et puis bon, il y a quelque chose qu'on appelle la pauvreté. Donc ça, c'est la raison contingente. La raison plus générale, c'est que ça fait 10 ans, peut-être plus, qu'on se connaît, qu'on se croise, très souvent d'ailleurs dans des pays lointains, parce que le propre des documentaristes, c'est au moins de beaucoup voyager. Et puis il y a une sorte de suivi, car ici il y a quelqu'un qui est obstiné et qui ne lâche pas le morceau, c'est bien Johan van der Koken. Donc on va commencer par ce film qui est montré à la télévision demain. On te propose donc de faire un film qui se passe en France ou sur la France au moment du bicentenaire. Et immédiatement, alors moi je dirais ça te ressemble assez, mais tu peux me dire que non, tu vas là où c'est pas vraiment les marges absolues, c'est pas non plus vraiment le cœur de la société, c'est quelque chose qui est entre les deux, qui est cette sorte de marginalisation molle, triste, sans visage, qu'on a appelé un moment, par exemple, en France, les nouveaux pauvres. Oui. Donc, est-ce que tu t'es dit, je vais faire ça tout de suite, ou tu connais très bien la France, tu y as vécu, tu as fait l'IDEC, tu parles français, tu as même tourné dans un quartier dans lequel tu as vécu dans le temps, étudiant, donc, est-ce que tu t'es dit, je vais revenir dans le même quartier, regarder un peu vers la gare de Lyon et trouver un sujet, ou est-ce que tu t'es dit, non, ben, je vais faire la pauvreté tout de suite?
Quand on m'a sondé si je voulais faire quelque chose, Je me suis dit, bon, ça vaudrait peut-être la peine de faire quelque chose. Une fois invité par la France, ça j'ai trouvé quand même honorifique. D'autre part, travailler pour la première fois avec quelqu'un qui était mon camarade à l'IDEC, mais que j'avais perdu de vue, Marine Karmitz, le producteur. Donc je trouvais, bon, il y aurait une possibilité de faire quelque chose de très spécifique. J'étais revenu d'Inde, où j'ai fait un film que tu connais, L'œil ouais. au-dessus du puits, qui est, disons, sur les grands mouvements de la vie et de la mort, sur le cycle de la vie et de la mort, qui est un film essentiellement lyrique. Et j'avais le besoin de vraiment retourner en Europe. J'avais un projet que j'ai fait commencer d'ailleurs maintenant, qui s'appelle Face Value, qui c'est aussi par incidence sur le visage, mm-hmm. qui est un film de 1000 visages que je fais entre autres avec la 7. Et donc là, s'ajoutait la possibilité de faire un second film européen. Et je vois maintenant que je suis donc sur deux films qui peuvent, si tout va bien, se complémenter. Et qui sont des films un peu sur l'état d'esprit européen, où, à mon avis, il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup d'incertitude. Et évidemment, dans l'année formidable qu'on vient de passer aussi, énormément de mouvements. Et plutôt maintenant un mélange d'espoir et d'angoisse. Mais donc c'était sur ces notes-là qu'il me semblait qu'il était important de travailler. Et il m'est venu aussi parce qu'il me restait, après mon retour d'Inde, une certaine colère. J'ai trouvé que je n'étais pas le sage pour lequel me prenait la critique après ce film-là au-dessus du puits. Qu'il me restait une colère bien banale. Et qu'il fallait que je l'exprime, que je le traite à un autre niveau que je ne l'avais fait, bon, il y a 5, il y a 10 ans, etc. Que quand même, les choses reviennent d'une autre manière. Mm-hmm. Parce que je pense que c'est ça ma façon de travailler, de retravailler sans cesse des choses que j'ai vécues autrement et que je dois confronter à des expériences nouvelles, à des trucs que j'ai appris dans le cinéma, etc. Et donc j'ai eu cette idée, à travers cette colère, sur un phénomène qui est bon, très pesant, je crois, dans tout le monde occidental, c'est ce clivage social, n'est-ce pas, où d'une part, on s'enrichit très rapidement, d'autre part, il y a donc de nouvelles formes de pauvreté qui ont pris des formes ahurissantes aux États-Unis, par exemple, ou même... disons, ceux qui ont un peu au-dessus de la moyenne sociale commencent maintenant à en souffrir, à ne plus supporter l'image de, disons, vraiment d'une diminution. Et bon, ça se fait aussi, ça se produit en Hollande et ça se produit en France. Et donc, je me suis dit que ce serait là quand même un sujet à reprendre. Et j'ai proposé donc l'idée... De faire un film sur l'exclusion et ce que ça entraîne, surtout comme climat mental, et pas seulement ou pas premièrement comme manque matériel. C'est là aussi peut-être que les choses se sont déplacées un peu pour moi.
C'est ça, les choses ont changé puisque quand on est dans ces zones de la nouvelle pauvreté, on tombe sur des gens, donc ton personnage principal qui s'appelle Philippe, qui a 23 ans, qui est un garçon assez... qui a l'air assez bien, assez normal, mais qui ne travaille pas, qui dort dans la gare de Lyon, qui dit qu'il cherche un boulot, qui va à l'armée du salut, mais enfin qui parle volontiers. On croit au début comme ça que ça va être une sorte de documentaire comme on en fait à la télévision sur regarder comment ils vivent, mais enfin c'est pas très spectaculaire parce qu'après tout l'armée du salut, bon c'est des gens contingentés qui font la queue, puis après ils mangent avec des couverts en plastique, et puis après ils dorment sur des lits, un peu comme à l'armée. Et là, on est assez habitué à cette image-là, et elle n'est plus très spectaculaire. Je dis ça parce que tu as fait des films au début de ta carrière, et puis des films dans des pays du tiers-monde, dans des pays lointains, où les formes de pauvreté étaient elles-mêmes terriblement criantes, parce que peut-être les gens du tiers-monde n'ont pas la même façon de protéger leur image, ou que nous, on ne sait pas la voir. Tandis que là, c'est très très proche. Et on se rend compte en cours de film, ce qui est beau, c'est que c'est en cours de film, donc tu prends le temps de faire venir cette idée-là, qu'évidemment, ce garçon qui n'a rien à faire, qui dès qu'il s'ennuie, que le temps passe lentement, a évidemment pas mal d'idées sur lui, sur son apparence physique, sur à quoi il ressemble, sur le monde dans lequel il est, sur la France dans laquelle il est. D'une façon pas très surprenante, il est plutôt en faveur de l'idée qu'il y a trop d'étrangers en France et que la France n'est pas trop française. Mais enfin, quand cette information vient, on n'est pas trop étonné, disons que ça paraît naturel vu ce qu'on doit vivre. Et donc tu rentres dans quelque chose qui est l'exploration d'une image intérieure, l'image que lui a de lui-même. Il y a par exemple une scène que je trouve formidable, c'est que tu lui demandes à un moment s'il avait de l'argent, qu'est-ce qu'il ferait. Il dit ce qui serait très important pour moi, mon plus grand désir, c'est une garde-robe bien. Il dit, j'aime beaucoup les chaussures, le costume. Il dit, c'est essentiel d'avoir une apparence physique. Et il dit, d'avoir un masque. Donc le film s'appelle Le Masque. Et il me semble qu'aujourd'hui, effectivement, si on filme des gens qu'on peut dire exclus ou qui appartiennent à cette société à deux vitesses, donc ils sont dans la deuxième vitesse, qui est quasiment immobile, je pense qu'on trouverait tout le temps le même thème que peut-être on ne trouvait pas il y a 10-20 ans, qui est ce qui nous manque le plus, c'est hors le travail, etc. C'est une image probable. Le mot probable même est devenu très un peu du jargon chez nous. Une probabilité d'image. Sauver la face, faire face. Et ça, ça existait moins avant. Donc ça, c'est quelque chose que tu vois quand tu regardes maintenant nos sociétés.
Il faut bien aussi dire que dans le genre de film que je fais, il y a toujours la notion de rencontre. Rencontre de ce qu'il y a à l'intérieur de moi, ou de mes préoccupations, et de ce que je rencontre, de ce que je vois, de ce qui se présente à moi. Et donc là, je trouve qu'il y a toujours un moment fou, parce que, sans vouloir être prétentieux, quand j'ai discuté avec Marie-Christine Veilhoff, qui était la personne à la mission du Bicentenaire qui suivait ce projet, qui aussi soutenait ce projet, j'ai dit, je voudrais faire un film surréaliste au sens propre. Et je crois que peut-être ça ne se voit pas du premier coup, mais il y a quelque chose comme ça où il y a beaucoup de choses quand même de l'ordre du secret, de choses passionnelles, mais qui sont tout à fait, disons, opprimées. Hein, mais qui sont dans des images, dans des moments, des signes, des couleurs, des lieux, qui aussi quelque part contribue à ce personnage, mais qui lui, d'une certaine façon, est aussi en même temps exclu de toutes ces images. Et ça, c'est peut-être l'exclusion profonde de l'affaire, je dirais presque au niveau de l'inconscient, quoi, où il y a toute cette histoire, évidemment, de sa mère, tout le passé qu'il ne peut pas toucher. Et c'est quelque chose aussi que je reconnais dans ma propre vie, qu'il y a comme ça des moments, des histoires, où j'ai été forcé de faire des recherches, de m'intéresser au rapport avec ma mère qui est morte depuis longtemps, où il y avait à un certain moment un manque de mémoire, un manque de souvenirs. Donc quelque part, à vrai dire, je m'en rappelle maintenant. Ce qui a eu ça en rapport avec ce projet. D'autre part, il y a évidemment le pouvoir des images publiques, les images télévisuelles et les images présentées par l'État, n'est-ce pas? Et je crois, si on le dit très grossièrement, il y a donc ce côté tout à fait inconscient, obsessionnel, mais obsessionnel feutré ou étouffé. Et de l'autre part, il y a la force de ces images publiques qui sont finalement irrésistibles même à celui qui est rejeté par ce pouvoir même. Hein. Donc il y a le moment quand même fantastique. Je peux dire qu'il est fantastique parce que je ne l'ai pas mis en scène, où Philippe applaudit Mitran quand il passe, tandis qu'il a, comme les autres personnages dans le film, a fortement critiqué Mitran. Il a dit que c'est un très mauvais président parce que, etc., qu'il admet les immigrants, les immigrés, etc. Donc il y a au moment, et ça, quelque part, c'est tellement essentiel parce que quand j'ai pensé au projet, j'avais, et ça je crois que c'est est-ce qu'on peut l'appeler surréaliste, je ne sais pas, mais au moins absurde, j'avais, en pensant au film, tout de suite cette image absurde en tête, un gars qui dort à la gare et qui voit le président de la République passer à 2 mètres devant lui. Mm-hmm. Là, on n'a pas pu faire, bon, il passe à 20 mètres, mais essentiellement, donc, disons, là, il y a une perte par rapport à l'image imaginaire. Mm-hmm. En même temps, il y a un surplus parce qu'il applaudit, n'est-ce pas? Un truc. Oui. Donc, c'est ça exactement, je peux dire, où mon cinéma se situe.
Mmh. Non, moi, j'aurais pas dit surréaliste, mais maintenant que tu le dis, mmh. on pourrait dire surréaliste dans le sens de ce que faisait, d'une façon très froide et très logique, quelqu'un comme Buñuel, qui montrait un personnage qui se contredisait absolument d'une scène à une autre, et puis on n'avait pas envie de dire qu'il se contredisait, parce qu'on se rendait compte qu'il était dans cette contradiction presque normalement, et que ça créait presque un sentiment d'insolite ou d'absurde.
Court-circuit.
Court-circuit. Alors, comme le court-circuit, c'est quand même ce qui arrive dans les sociétés où il y a trop de communication et pas assez d'expérience. Donc là, ce garçon, il lui manque de l'expérience. Mais ça même lui bien, qui est hors société, il est pris dans des réseaux de communication, donc il réagit à l'image de Mitterrand tout en ayant des idées lepinistes. Et puis on sent que la jonction entre les deux, il ne la fera pas, qu'on la fera pas pour lui, que voilà. Donc on a une vraie image de l'émiettement imaginaire, de l'émiettement, et donc,
oui, je suis très d'accord,
politique.
Parce que moi je l'ai formulé comme ça, que il y a donc une espèce de vidange des gens, n'est-ce pas, où la personne est vide, bien qu'on ne puisse jamais juger une autre. On ne peut, parce qu'évidemment il y a des moments où quelque chose de très fort passe, donc on ne peut jamais dire que quelqu'un est vide, mais disons relativement, il y a un vidange. Et bon, en travaillant sur le film, ça m'a paru être l'essentiel de la chose, n'est-ce pas? L'état pré-fasciste. Pas en parlant de ce garçon qui est un gars, disons, que j'aimais tout à fait bien. Mais je veux dire, comme expérience des gens, où il n'y a plus de passé, peut-être plus d'éléments dont la personne puisse être fière. Aussi simple que ça.
Il y a d'ailleurs une scène qui le montre bien. C'est un moment, il parle avec des clochards qui sont eux vraiment des clochards qui sont beaucoup plus vieux que lui, qui sont très très atteints, et il y en a un qui tient un grand discours qui montre toutes ses blessures. Donc certaines viennent d'accord. de la guerre d'Algérie, alors il montre son ventre, son pied, sa main, et plus tard après le héros dit oui mais les vieux non, ils vivent dans la marginalité, ils ont perdu le sens du social. Enfin il les juge très très durement, comme si il n'y avait pas de communauté de destin entre lui et la façon dont il est paumé, et la façon dont ceux-là, qui sont beaucoup plus âgés que lui, sont maintenant définitivement installés dans bon la haine, le ressentiment, y compris le discours un petit peu le discours de haine. Et là, on voit que c'est vraiment quelque chose de nouveau. Alors toi, tu t'es toujours intéressé dès tes premiers films. Hein. Les très cinéphiles ont forcément vu à un moment ou à un autre les deux films qui s'appelaient L'enfant aveugle, que moi je trouve extraordinaires, qui sont des films, je sais pas, des années 60.
Oui, oui, hein. L'enfant aveugle est de 64.
Voilà.
Et puis le deuxième, Hermann Slobel, L'enfant aveugle 2. De 66.
Et alors, à l'époque, on disait, Van der Kuyken, c'est un cinéaste absolument scalpel, très, très exigeant et très dur. Son sujet, en gros, c'est les misères du capitalisme, avec qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens qui ne peuvent pas ne pas en faire l'expérience. Donc là, c'était très, très, très terrible, puisque c'était la cécité chez un enfant. Et on dirait que 20, 25 ans plus tard, les choses sont à la fois moins disons pathologique, car là c'était un cas extrême, et peut-être plus grave parce que plus diffuse, presque respectable. En plus, ce garçon a un désir de respectabilité.
Mais écoute, là, il me faut quand même dire 2-3 choses. Que tu parles des aveugles, je crois que c'est très bien, parce que finalement, ce qui, je pense, rétrospectivement, m'a intéressé, c'est donc pas seulement ou pas principalement celui qui est défavorisé. Je crois là, évidemment, il y a des émotions fortes qui jouent. Mais ce qui m'intéresse peut-être le plus, c'est l'énigme. L'énigme,
voilà.
Le mystère.
On bute sur quelque chose qui est l'expérience de l'autre.
C'est-à-dire, là, quand il y a... Bon, ça, là, ça, je l'ai souvent dit. Quand il y a un des sens qui manque, on se rend compte du mystère du réel, n'est-ce pas? On se pose la question sur la vue, évidemment, quand la vue manque. Il n'est pas par hasard que dans l'année 66, j'ai fait un film sur un peintre-poète, Luce Bert, excessivement visuel, en couleur. Et en même temps, j'ai fait le film sur le garçon aveugle. Et pour moi, ce sont deux films sur la vision. Que j'ai tourné un bout de l'un, puis j'ai tourné un bout de l'autre. Je les ai fait vraiment en même temps, alternativement. En petits bouts.
C'est-à-dire qu'on on passe assez facilement du thème de « il n'y a pas assez d'images » au thème de « maintenant il y en a beaucoup trop et personne ne les voit ».
Voilà.
Et toi, évidemment, ta caméra enregistre, comme toute caméra qui est là et qui enregistre ce qui est, une sorte de déferlement terrible d'images, qui sont les images dans lesquelles on est immergé, qu'on ne voit pas avec une telle netteté. Et là, on voit simplement que c'est des images. Par exemple, les grandes pubs dans le métro, sur les 36-15 érotiques. Et peut-être que dans le temps, on aurait dit, regardez, c'est la répression sexuelle, on montre des grandes images séduisantes, alors que les gens sont dans la misère sexuelle. Aujourd'hui, c'est peut-être pire, parce qu'on dit même plus, c'est des images sexuelles. Peut-être que le fait qu'elles soient plutôt sexuelles leur donne une petite chance d'être vues. D'ailleurs, il dit lui-même qu'il regarde des fois Penthouse ou lui ou Playboy pour regarder les femmes à poil, mais que c'est comme une sorte de rappel qu'il y a la sexualité et que c'est encore quelque chose d'un petit peu plus visible
bien
que le reste.
Bien qu'il faut dire justement que là où il y a déprivation, parce que c'est ça aussi dans le film, la peur de la sexualité devient très forte.
Oui.
Ça, c'était parce que, disons, il y avait deux choses. Je n'avais pas pour projet de parler du racisme. Je n'avais pas prévu que, par exemple, sur l'homosexualité,
voilà,
il y aurait quelque chose
Ça revient très souvent.
Hein? Mais dans le discours des gens, ça sort immédiatement.
Ouais.
Donc le film, disons, après deux jours de tournage, s'est complètement déplacé. Ou pas déplacé, mais son accent s'est mis sur ce débat-là, et je me trouvais dans une situation intéressante pour moi parce que je me disais qu'il fallait, comme j'avais eu cette rencontre avec ce gars, qu'on s'était engagé mutuellement à faire le film, qu'il faudrait qu'on ait un rapport d'une certaine confiance, de respect, n'est-ce pas? Donc il fallait quand même que j'aime un gars qui tient ces propos-là.
Eh oui.
Et c'est essentiel, je crois, parce que, par exemple, je suis assez sûr qu'il y a 10 ans, je n'aurais pas pu le faire. Donc, je peux presque dire, si j'ai fait des progrès dans le cinéma, c'est dans ce sens-là, parce que c'est un problème, finalement, de forme, de narration. C'est un problème narratif. Comment doser les choses afin que le spectateur sache quand même où toi, comme faiseur d'images ou comme narrateur, où tu te situes, bien que tu laisses un peu de suspens de temps en temps, sans quand même que tu aies déjà écrasé ton sujet, quoi, ton personnage. Et donc c'est un problème, je crois, de dosage narratif, quoi. Et ce sont des problèmes auxquels je ne m'intéressais pas, disons, il y a 10-15 ans, de la même manière.
Non, parce qu'il y a quelque chose qui s'est rabattu socialement sur tous ces pays-là, donc y compris chez les marginaux de ces pays-là, c'est que le discours un peu anarchiste, ou le discours de type libération sexuelle, où chacun fait ce qu'il veut, n'existe plus. Et que là, c'est clairement dit que sombrer dans cette zone qui n'est pas la société, qui est la société, c'est à peu près équivalent à être homosexuel, à être pédé, comme ils disent.
Voilà.
Et ça revient souvent, et c'est tout à fait à mettre en rapport avec ce désir qu'il a d'être un garçon bien habillé.
Ne pas se faire remarquer.
Voilà, ne pas se faire remarquer, donc une sorte de trucs vraiment exprimés de normalité vestimentaire, sexuelle, sociale, alors qu'il est justement presque hors société. Et ça, tu ne l'aurais pas filmé avant parce que ça n'existait pas. Et que c'est la difficulté peut-être aujourd'hui de faire du documentaire social, disons, de se pencher sur ou de tout ce projet-là, parce qu'aujourd'hui, on fait parler les gens, il y a le son direct, ils parlent très volontiers, ils n'ont pas peur de la caméra, ils sortent des choses qui sont leur vision du monde, et des gens parfaitement, disons, à plaindre socialement, ne deviennent pas pour autant des personnages qu'on aime. Et toi, tu as eu largement le temps de voir venir ce problème dans ta carrière, parce que tu as toujours... traquer cette question-là, mais je pense qu'elle se poserait pour toute tentative maintenant de témoignage social. Oui. Et ben, il faudrait entendre le discours lepéniste, parce que c'est évidemment une partie de ces gens-là est amenée assez spontanément à résumer leur malheur personnel d'une façon extrêmement simplifiée. Donc on se dit, oui, effectivement, tu les es pré-fascistes. Des fois, on se dit dans des moments un peu où on se met à douter de tout que il n'est pas exclu qu'il y ait quelque chose de cet ordre-là dans les pays riches. Maintenant, on entend ce discours comme peut-être on aurait entendu ce discours s'il y avait eu du cinéma vérité ou du cinéma direct en 1931, 32, 33 en Allemagne, où des gens auraient dit, mais...
Mais c'est la faute à... on ne peut pas s'empêcher d'y penser.
Oui. Hein?
Mais là aussi, je veux dire, il y a tout le... que déjà, quand même, dans notre conversation, je dois déjà signaler, on en parlera peut-être plus tard, mais pour moi, c'est vraiment ce domaine entre la fiction et le document qui est fascinant.
Bien sûr.
C'est-à-dire, s'il y a toutes ces réminiscences des années 30, de ce qu'on en a perçu à travers les informations qu'on a eues, c'est aussi déjà un imaginaire. Hein. Il y a donc déjà dans ce film une espèce de mise en scène de quelque chose qu'on soupçonne, n'est-ce pas? Et ça va un peu pour tous mes films, mais là je le trouve peut-être aller un peu plus fortement dans ce sens-là.
Oui, oui.
En même temps, là, il y a cette mise en scène même, par exemple, dans la scène dont tu parles des clochards dans la gare, où il y a une espèce d'auto-mise en scène. Et quand même, une succession de cadrages, je remarque, qui est quand même très, si je peux dire, très cinématographique, presque théâtral, où il y a donc vraiment dans ce cadre un peu formel, soudainement des trucs qu'on ne domine pas du tout. Et c'est ça, pour moi, toujours le grand moment, où ce qui se passe réellement, ce qui se produit sur le moment, dépasse quand même ce qu'on a pu prévoir, bien que le cadre est le résultat d'une coopération entre moi et les gens. C'est-à-dire, ils savent qu'ils vont être payés, ils font leur truc. Moi, je me pose quelque part, j'ai pris un petit tabouret pour être à leur hauteur. Donc, il y a un certain nombre de trucs qui ont été préparés, qui sont vraiment formalisés. Et puis, le moment fait exploser ça. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est irremplaçable.
Toi, ton style, ta méthode, c'est quelqu'un de très méthodique, ça a toujours été de mettre en scène une sorte de conflagration entre la présence de la caméra et puis cette sorte de théâtre qui lui est à un moment opposé, enfin qui lui est offert et opposé à la fois. Et alors, ça marche très bien, évidemment, pour les choses qui sont du domaine de l'explosif. En même temps, l'évolution des sociétés et des personnages de la vie dans ces sociétés fait qu'il y a aussi une grande part d'implosion. Et je pense que ce qui doit être difficile, mais en même temps c'est très excitant, parce que c'est un peu une sorte de nouveau défi maintenant pour les gens qui veulent témoigner avec les images et les sons, c'est comment on restitue l'implosion. Par exemple, il y a toute une série d'images dont on n'a pas encore parlé, qui est le contrepoint donc à la journée de ce garçon, qui est ce qu'on peut voir à la télévision à ce moment-là. Donc, c'est à la fois... Je ne crois pas que ça se veuille tellement ironique, ça l'est presque objectivement, puisque la fiction revient par ces images, mais pas dans le bon sens du terme. Elle revient comme des images absolument appartenant à un autre monde. Donc, on voit des discours d'hommes politiques, on voit du tennis, on voit des choses de la télévision, et on voit, par exemple, quelqu'un qui lit la Déclaration des droits de l'homme, une jeune fille avec un air très, très, très pompeux, assez, assez touchant, et tout d'un coup, on se dit, ils sont en plein délire, les gens de la télévision, les gens qui vendent, qui font pas 36-15 bicentenaires, pianotés, vous aurez tout, avec une voix d'aéroport, une sorte de côté guilleret, qui tout d'un coup devient la fiction, mais alors au sens irréel, au sens fabulation irréelle, et même qui inquiète un petit peu sur cette année du bicentenaire, qui est à la fois celle qui s'est terminée par... les événements de l'Est, et qui en même temps a été celle aussi où ces thèmes comme ça de la nouvelle pauvreté sont vraiment arrivés sur à la surface des choses. Et là, ils se rencontrent tous les deux.
Mon ami Jean-Jacques Henry a enregistré tout le long de ces trois mois beaucoup d'images télévisées. Et finalement, ce qui nous a frappé, c'est que de ce terme révolution, chacun se servait comme il voulait. Il y avait donc Khomeini, père de la révolution. Il y a les Médecins sans frontières qui font un disque révolution française. Mm-hmm. Chacun s'en sert. Et puis, ça se vidait de sens. Mm. Et disons, pour moi, c'était quand même quelque part un stade dans un itinéraire, dans un long, une longue itinéraire. Parce que en 71, j'ai fait un film que tu connais aussi, qui s'appelle Diary, qui est le premier film de la triptyque Nord-Sud, qui finit sur le mot révolution. Et donc, je peux dire que sur le sens possible de ce mot que j'avais lancé à la fin de ce film, j'ai dû quand même faire beaucoup de films. Et là, c'est un peu, peut-être un peu la fin du chemin, quoi.
Oui, bah, c'est-à-dire que...
qu'il faut penser le changement, parce que je crois qu'il faut toujours penser le changement. En d'autres termes.
Voilà, d'ailleurs c'est drôle que tu dis changement, parce que j'allais y venir. Il y a eu, au début du pouvoir socialiste en France, il y a eu un peu pareil, il y a eu une sorte de commande qui a été faite à plein de cinéastes, je me rappelle même, je crois même que Godard a fait quelque chose, sur le mot changement, qui était très intéressant, parce que c'est une notion très abstraite, et justement, ce mot devait éviter celui de révolution, qui maintenant est trop lourdement connoté. Et en le disant, je me rends compte que c'est déjà très loin. Oui. Lorsque sur le mot de changement, sur comment une société peut vouloir ou accepter ou regarder le plus attentivement possible ce qui change et comment ça change, changement étant à la fois l'acte de changer et aussi le résultat de la chose qui a changé, donc peut-être le plus beau sujet qui soit pour un cinéaste, qui est d'observer des métamorphoses, eh bien c'était loin maintenant et on est revenu maintenant à quelque chose de très, très massif. Et le mot « révolution », c'est évident qu'il est pris partout comme un retour à la case départ. C'est évident que la Roumanie, c'est le retour à la case départ. L'Iran, dont je reviens, c'est plutôt le retour à la case départ. Et la case départ est très très loin en arrière, en plus. C'est une case départ religieuse très ancienne. Et il n'est pas évident que les gens qui étaient fascinés par le changement, comme toi, tout d'un coup se retrouvent dans cette révolution-là. C'est-à-dire révolution au sens, faut faire un tour complet, se retrouver chez soi, affronter des choses très archaïques, pas forcément très sympathiques, en se disant, mais c'est la condition à laquelle on peut peut-être, dans un nouveau tour de spirale, faire autre chose. Et je crois qu'on a tous à peu près vécu la même évolution sémantique du mot évolution.
Oui.
Donc aujourd'hui, effectivement, on est embêté quand les gens disent révolution roumaine, c'est ridicule. Ou alors, dans ce sens-là, stricto sensu. Ça veut dire que les problèmes vont commencer. Et heureusement qu'ils vont commencer.
Cette idée de changement, je pense en avoir parlé à travers, évidemment, les images et les sons, aussi dans le film sur l'Inde. Mais là, plutôt dans le sens...
Mais aidé par la mythologie indienne.
Oui,
aidé
mais par, aussi dans le sens où je m'intéressais à ce qui résiste au changement aussi, surtout. C'est-à-dire là où une culture est encore à une force... il y a aussi une résistance très forte au changement. Justement, il faut que les formes restent presque identiques, qu'elles puissent se reproduire sans fin. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait intéressant. C'était peut-être un chemin qui avait pour moi commencé un peu avec le film « I Love Dollars », « J'aime les dollars », où je m'apercevais que quand les gens de la finance parlaient vraiment de leur métier, il fallait qu'ils reviennent à des images très archaïques, du sang, du corps, de la viande, de la chair, des choses fondamentales. Et puis des notions morales, comme la valeur du travail, etc. Le calvinisme, évidemment, c'était un volet qui m'intéressait de par mon pays. Et donc, j'étais sensible à la persistance des choses très archaïques dans un discours qui est justement axé sur un changement qui se fait sans cesse, n'est-ce pas, où les choses sont censées bouger tout le temps, que finalement, la part d'archaïsme était très forte.
Oui, oui.
J'ai pris ça en Inde, avec un œil lyrique, évidemment, mais...
On est passé d'une période où on disait, de toute façon, les choses changent, donc il faut comprendre le changement, aller dans son sens, être adéquat à ce changement, le regarder, le contrôler. Maintenant, le sentiment dominant, c'est que les choses changent toutes seules et que ce n'est jamais qu'une prolifération du même. Alors, à ça s'opposent des cultures ou des gens isolés qui, eux aussi, décident de rester le même, et ça donne tous ces délires à base d'identité, que ce soit au niveau d'un peuple, au niveau d'une seule individualité. Et c'est sûr que c'est tout d'un coup beaucoup moins euphorique que ce qu'on avait pu penser dans les années 60, où toi, tu as fait ça admirablement, tu montais 5-6 pays, comme ça, d'une sorte de montage parallèle, qui était une sorte d'héritage, peut-être l'euphorie révolutionnaire en moins, disons, de Ziga Vertov, disant le monde est une seule planète, ce qui se passe au nord se passe au sud, et on va essayer de montrer l'interaction. Et c'était très très ambitieux, c'est de montrer comment une onde de choc passe des USA au Pérou. Et aujourd'hui, c'est sûr qu'on n'est pas confronté à la même réalité.
Mais je crois que, par ailleurs, parce que j'entrevois quand même la possibilité de refaire un film mondial. Je veux dire, après le film qu'on va démarrer maintenant, Face Value, qui sera un film de 1000 visages, mais encore sur l'Europe, sur notre partie de l'Europe, si tu veux, j'ai quand même le désir de faire un film où il y aura cette espèce de pattern, n'est-ce pas, de structure énorme. Mais il me semble, quand j'y pense un peu, que ce sera beaucoup plus, disons, comme des blocs qui gardent leur propre valeur, n'est-ce pas, où il n'y aura pas forcément ce besoin de faire la connexion a priori. Mais je crois, d'autre part, qu'il y a quand même, comme dans la langue, il y a des vérités qui sortent aussi des contacts des images. Et à ce niveau-là, il y a quand même beaucoup de choses qui restent justes. Un film comme La Forteresse Blanche, qui est le deuxième film de ce triptyque Nord-Sud, où il y a donc une interaction presque hystérique de tout avec tout, de chaque image doit vraiment entrer en contact avec toutes les autres images et donc revenir dans des sens un peu différents tout au long du film, comme une espèce de tourniquet, n'est-ce pas, de porte tournante où les images entrent et sortent. Je crois que ce film, quelque part, est mieux senti maintenant où les gens ont l'expérience du zapping, que
oui, bien sûr,
dans l'époque.
Oui, oui.
Donc je veux dire, il y a quand même aussi une vérité du contact des images elles-mêmes.
Sur le simultané.
Hein, qui, mais aussi physique, dans toutes leurs connexions, qui pour moi reste quand même très forte. Et qui permet quand même aussi de voir, des connexions dans le monde qu'on perd quelque part dans le politique. Il y a une espèce de vérité de l'image quand même qu'on peut tester. Pour moi, un montage, par exemple, doit se tester toujours. Moi, je trouve, par exemple, souvent ça se produit qu'on colle deux images ensemble à partir de l'idée, au point de vue de l'idée ou du récit ou du contenu. C'est juste, mais quand même, c'est une collure fausse. Et je crois que tout le monde a cette expérience-là. Et c'est quand même l'ultime vérité. Si une collure est fausse, elle est fausse.
Elle est fausse absolument, toujours. Et inversement, si on n'est plus capable de faire du montage, et pas forcément comme cinéaste, aussi comme quelqu'un qui regarde des films, c'est-à-dire de mettre en rapport des images qui sont très différentes, et si on n'est pas prêt à accueillir ce que ça produit comme connaissance dont seul le cinéma est capable, enfin là je parle comme Godard, mais... Là-dessus, je suis d'accord avec lui. Du coup, on perd l'image tout court. C'est-à-dire, on perd ce dont l'image est encore riche. Qui perd le montage perd l'image, et qui perd l'image perd tout.
Parce qu'il n'y a plus de risque.
Oui, il n'y a plus de risque, il n'y a plus simplement quelque chose qui se déroule en boucle. Alors, l'émission étant quasiment terminée, on a quand même réussi à ne pas parler de qu'est-ce que c'est que de faire du documentaire, oui, etc. Oui. C'est dommage parce que j'aurais aimé prendre la question par un autre bout, mais oui, on ne pourra simplement que l'effleurer, puis on y reviendra plus tard. C'est les gens qui travaillent à partir des petits pays d'Europe, les pays riches, je pense surtout à la Suisse, pas mal à la Hollande qui est un pays, ne produisent pas de grands raconteurs d'histoire, mais produisent des gens qui, je dirais, sont un petit peu les veilleurs, un petit peu les gens qui observent attentivement les autres pays, qui voyagent beaucoup. Et je me demande si dans le cas de ces pays-là, il faudrait aussi ajouter la morale calviniste, le goût du témoignage, l'intérêt pour les hommes comme ils sont, le goût du nu, enfin de la mise à nu des choses. Je me demande si c'est pas comme ça qu'il faudrait aborder avec toi le problème du documentaire. Mais je crois que tu n'as le temps que de faire une très courte réponse.
Je passe à côté de tout ça parce que, disons, ça ne me plaît pas beaucoup. Moi, je vais dans le sens quand même de l'amour, si tu veux, et de la vie. Mais c'est aussi con que ça, mais c'est parce qu'on doit être bref. Mais je veux, pour moi, c'est quand même une affaire passionnelle. Et moi, je trouve que la narration existe, mais elle est simplement ailleurs. Moi, je veux raconter dans chaque image. Donc, il faut voir chaque image, il faut entendre chaque bruit, chaque élément musical. Et il y a donc des choses peut-être qui ne sont pas directement de l'ordre du récit, mais qui, moi, me touchent beaucoup, parfois me feraient pleurer, quoi. Bon, ça peut être un air musical avec un certain mouvement d'appareil, n'est-ce pas? Ça peut être... Pour moi, il s'agit d'élargir, justement, le chant. Et c'est pas le calvinisme, c'est le contraire.
Bon, donc, c'est pas le calvinisme, ce sera le mot étrange à la fin. L'émission Le Masque de Johan Wederkooken passe demain, 23h25, sur FR3. Merci Johan, et puis on reprendra ce débat là où on l'a arrêté aujourd'hui.
Oui, j'aime bien.
C'était Microfilm, Johan Wederkooken interrogé par Serge Danet, une émission diffusée pour la première fois le 25 février 1990. Vous pouvez la réécouter en ligne ou la télécharger sur le site franceculture.fr à la rubrique Les Nuits de France Culture.